Michel Fourcade, vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine à Montpellier et vous êtes aussi, si je peux me permettre, un peu tombé dans l'œuvre de Jacques Maritain. Comment est arrivée votre rencontre avec Jacques Maritain ?
C'est donc quand j'étais en Cagne que j'ai découvert Maritain, parce que cette année-là, on avait deux sujets. En histoire, on avait la Seconde Guerre mondiale, et puis en philo, on avait le mal. Et à la bibliothèque de ma classe prépa, il y avait deux livres qui étaient poussiéreux, que personne n'avait dû lire depuis bien longtemps. Un qui s'appelait « À travers le désastre », et qui a été le tout premier livre clandestin en France, publié aux États-Unis par Maritain en 1941, mais qui a été le premier livre clandestin en France. Et l'autre livre qui était « Dieu et la permission du mal ». Il se trouve que je suis tombé sur ces deux livres et que je les ai trouvés géniaux tous les deux. Et je me suis demandé qui était assez génial pour être à la fois pertinent donc dans les questions les plus compliquées de la métaphysique, le mal, la permission du mal, la liberté de l'homme, etc. Et puis en même temps, tout à fait engagé et avec une très grande acuité du regard et du jugement politique, pour avoir écrit aussi à travers le désastre. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré Maritain. Et puis après, ben voilà, je suis tombé dedans et j'en suis jamais sorti. J'ai lu Les grandes amitiés de Raïssa et j'ai découvert ces Mauriac qui parlaient de l'envers du siècle. Et donc jusqu'alors, le XXe siècle que je connaissais, il n'était pas très glorieux. Et donc là, ça m'a permis de découvrir tout un autre siècle, toute une autre dimension de la culture. Et donc maintenant, ça fait bien longtemps, mais j'ai jamais épuisé Maritain.
Et justement, dans votre spécialité, c'est croyances et mentalités contemporaines. Comment vous avez fait fructifier votre connaissance de Jacques Maritain à l'intérieur de ces spécialités ?
Alors, vous savez, chaque université a ses spécialités. Et à Montpellier, grâce à mes prédécesseurs, on a une longue tradition d'histoire religieuse, plutôt d'histoire religieuse moderne, de l'époque des guerres de religion, etc. Puis après, de l'histoire religieuse contemporaine. Et donc, on avait eu notamment Gérard Cholvy, qui était mon maître en histoire, et qui était qui est toujours un grand historien de l'histoire contemporaine, religieuse contemporaine. Et donc, c'était assez naturel, après, de travailler avec lui. Et quand il s'est agi de choisir un sujet, d'abord pour mon DEA, puis pour ma thèse. J'ai dit, mais pourquoi pas Maritain, puisque j'avais donc été impressionné par Maritain. Et bon, à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de travaux historiques, il n'y avait pas du tout d'ailleurs de travaux historiques qui existaient, mais il y avait un énorme fonds d'archives qui n'avait pas été encore utilisé, qui était en voie de classement. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir profiter de ce fonds d'archives et de pouvoir faire donc une grande thèse sur les réseaux de Maritain, les évolutions internationales de sa pensée. J'ai pas du tout épuisé le sujet, moi je me suis arrêté en 1939, mais ça faisait déjà 1500 pages, donc il fallait s'arrêter.
Et le titre justement de votre travail, « Feu la modernité, point d'interrogation, Maritain et les maritainismes ». Vous pouvez nous expliquer ?
Oui, ben Maritain s'est d'abord fait connaître, on pourrait dire, en jetant des cailloux dans les fenêtres de son temps. Et notamment, un de ses premiers livres, qui a été beaucoup reproché, s'appelait « Antimoderne ». Et il avait expliqué d'emblée, pourtant, qu'il s'agissait d'être antimoderne pour être ultramoderne. Et donc, la dialectique de la modernité qu'il avait nouée, c'était un point de vue critique sur la modernité, à la fois pour sauver ce qu'il appelait les vérités captives qu'il y avait en elle, tous les accroissements, tout ce qui était important dans la modernité, et en même temps, pour la dépasser, surtout, c'est l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire ça s'écroule un peu de tous les côtés, dans la période des totalitarismes, et donc sauver ce que l'aventure de la modernité contenait de meilleur, mais en la dépassant. Et donc, c'est pour ça que Feu la modernité, c'était pour signifier qu'il y a bien eu une période de l'histoire qui s'est achevée, dans l'entre-deux-guerres, entre les deux guerres mondiales, disons, puis la décolonisation, et qu'il s'agit donc de construire quelque chose au-delà de la modernité, non pas contre la modernité, mais en sauvant tout ce qu'elle a pu contenir de positif, tous les accroissements qu'elle a pu faire sur la connaissance de l'homme, notamment, et simplement sans se laisser couler avec aussi ses erreurs et ses épuisements, voilà.
Pour celui qui ne connaît pas Maritain et qui vous écoute en ce moment, quelle est la façon d'entrer dans ce que vous avez découvert de Maritain ?
Alors, c'est très compliqué parce que Maritain est plein de voies d'accès. En effet, aujourd'hui, on est dans un état de la culture qui est très déconstruit. C'est-à-dire que très peu de gens arrivent à avoir une culture qui soit complète, où il y a à la fois la spiritualité, de l'art, de l'esthétique, de la philosophie, de la théologie, des sciences humaines. Et donc, on est tous ultra spécialisés. C'est très difficile d'avoir une pensée où tout circule. Et donc, Maritain, justement, il nous présente avec son épouse Raïssa, le cas d'un couple où tout a toujours circulé. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une porte d'entrée sur la vie d'oraison, la vie contemplative, et toute leur vie, ils ont vécu la contemplation, ce qu'ils appelaient la contemplation sur les chemins. Il y a aussi une porte d'entrée sur l'art, tous leurs dialogues avec un nombre incroyable d'artistes, de musiciens, de compositeurs, de poètes, etc. Raïssa elle-même était poète, et Maritain a une approche, ce qu'il a d'abord fait connaître dans les milieux laïcs, c'était justement la pertinence de son approche esthétique, puisqu'il a tiré de saint Thomas toute une philosophie de l'art et de l'intuition. Et puis il y a bien sûr une porte d'entrée métaphysique et une porte d'entrée théologique. Donc selon les goûts personnels de chacun, il y a plusieurs manières d'arriver à Maritain. Alors après, la voie d'accès la plus simple, c'est d'abord l'aspect biographique, donc de commencer par lire les mémoires de son épouse, mais qui concernent que leur tout début, leur commencement chrétien, qui sont les grandes amitiés. Et puis après, on choisit et on a que l'embarras du choix pour pénétrer. Alors après, ce qui est important justement, c'est de ne pas en rester à un seul aspect de Maritain, mais de profiter justement de cette pensée où tout circule et on s'en retrouve enrichi dans à peu près toutes les dimensions.
Voilà. Michel Fourcade, c'est un compagnonnage quand même avec Jacques Maritain dans votre travail, mais aussi dans votre foi. La question qui me vient, c'est s'il n'y avait pas eu Maritain dans votre vie professionnelle.
J'aurais été tout à fait différent, c'est certain. J'aurais été quand même chrétien. Maritain n'est pas quand même la seule source à laquelle j'ai bu. J'ai quand même eu la chance d'abord d'une famille solidement chrétienne, et puis l'expérience aussi du scoutisme. Et puis également, avant Maritain, j'avais d'abord été un disciple, je le suis toujours, de Olivier Clément, le penseur orthodoxe, dont j'ai beaucoup reçu aussi au point de vue de la théologie spirituelle. Justement.
Et là, vous l'avez rencontré par quel moyen ?
Olivier Clément, il se trouve que ma famille était abonnée à France Catholique, et chaque semaine, Olivier Clément faisait un très bel article dans la France Catholique. Alors je ne lisais que ça dans la France Catholique, quand j'avais donc 18 ans aussi. Et il se trouve aussi qu'il avait des attaches montpellierennes, il repose d'ailleurs aujourd'hui dans un village pas très loin de chez moi. Et donc il m'est arrivé comme ça de pouvoir le croiser sur Montpellier. Et donc, alors ceci dit, Maritain, bien sûr, après, m'a permis de penser à autre chose, différemment, enfin, de toucher des problèmes qu'Olivier Clément ne touchait pas. On n'est jamais l'homme d'un seul auteur, mais naturellement, les auteurs sont plus ou moins importants dans l'itinéraire.
Et il y a aussi un livre que vous avez écrit avec d'autres aussi, « Les dialectiques de l'ascèse ». Qu'avez-vous voulu montrer dans ce livre ?
Alors, on organise donc de temps en temps une bonne partie de l'activité historique, ce sont des colloques qui permettent de réunir différents spécialistes de différentes périodes et puis parfois de différentes religions. Parmi ces colloques, celui sur les dialectiques de l'ascèse, son intérêt c'était de réunir des spécialistes aussi bien de l'histoire antique et de la pensée antique et de la pensée païenne antique jusqu'aux évolutions donc religieuses contemporaines. Et alors, moi, la dialectique que j'ai notamment explorée, c'est le grand débat qu'il y a eu dans l'Église au début du XXe siècle entre les voies ascétiques et les voies mystiques. Et c'était un moment où on se méfiait encore de la mystique dans l'Église catholique, et où l'ascèse était supposée satisfaire tout le monde, mais la mystique, depuis les guerres de religion, on y voyait une graine d'individualisme dangereux, etc. Et Maritain, justement, et les thomistes, le père Garrigou-Lagrange, qui a enseigné ici à l'Angelicum et quelques autres, ont beaucoup œuvré pour rappeler que tout le monde était appelé à la contemplation. Et pas simplement dans quelques visionnaires, mais les laïcs eux-mêmes étaient appelés à la contemplation. Et Maritain a montré ensuite qu'il y avait plusieurs manières de vivre, bien sûr, ces dons contemplatifs, que ce n'était pas uniquement, bien sûr, de l'ordre de phénomènes extraordinaires ou des extases, etc., mais que chacun, en fonction des dons de l'esprit, avait une manière de connaître cette vie contemplative. Et donc ça a préparé, lointainement, l'enseignement ensuite qui sera celui de Vatican II, et comme quoi tous les laïcs et tout le monde est appelé à la sainteté. Ça a été sur le plan théorique, disons, ce qui a pu accompagner en même temps, sur le plan spirituel, le message de Thérèse et l'enfant Jésus. Donc voilà, c'est tout ce mouvement-là qui a permis de rééquilibrer la vie spirituelle, non seulement autour de la cèse, mais également autour de la mystique.
Et quand Jacques Maritain parle de la contemplation, comment en parle-t-il ?
Les Maritains ont une vocation tout à fait contemplative d'emblée. Parmi leurs premiers maîtres, après leur conversion, il y a eu notamment les bénédictins de Solesmes, et donc de la congrégation de Solesmes, et ils ont été oblats. Bénédictins, ça a été une sorte d'école spirituelle pour eux, pendant les premières années, en tout cas, de leur parcours. Alors ensuite, évidemment, ce sont des laïcs qui ont vécu tous les engagements du siècle, et donc ils n'ont pas vécu la contemplation comme des religieux peuvent la vivre, mais c'est quelque chose que Maritain et que Raïssa a beaucoup développé dans son propre journal. C'était ce qu'elle appelait donc la contemplation sur les chemins. Vous savez que Maritain est mort petit frère de Jésus, et donc ça a eu un rapport avec son propre engagement final chez les petits frères de Jésus, où il y a une parenté entre un certain nombre d'intuitions, donc de Charles de Foucault, de Thérèse de l'Enfant Jésus, et puis de Raïssa, dans sa vie spirituelle. Comment vivre cette contemplation au jour le jour, dans toutes les tâches quotidiennes? Comment réserver à Dieu une place? Et dès 1922, les Maritains avaient publié un petit livre qui s'appelait « De la vie d'oraison ». Donc comment mettre la vie d'oraison, justement, à la portée des laïcs dans les soubresauts, on pourrait dire, du quotidien. Et non seulement peut-être dans le temps qu'on peut réserver dans la vie quotidienne, mais même la dimension contemplative qu'on peut avoir dans toute œuvre, dans tout travail, dans le travail même, il peut y avoir une dimension contemplative, et quel que soit le travail, pas uniquement le travail intellectuel, ou à partir du moment où le travail peut être sanctifié, il y a cette dimension contemplative qui peut être vécue.